Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, nouveau rapport sur l'impact du conflit en Syrie. Le HCR s'inquiète de la détérioration de la situation à l'est de l'Ukraine. 2,4 millions de vies sauvées grâce à l'initiative Chaque Femme, Chaque Enfant. Les violences commises au nom de la religion dénoncées au Conseil des droits de l'homme. En dossier, gros plan sur les attaques contre les albinos en Afrique. Enfin, dans Voix de Femmes, Michaël Jean s'exprime en faveur des femmes. Après 4 années de conflit, la Syrie a été évidée de 15% de sa population. 6% des Syriens ont été tués ou blessés suite au combat et 40% de la population est déplacée à l'intérieur du pays. C'est le constat accablant d'un rapport publié aujourd'hui par le Centre syrien pour la recherche politique avec l'appui de l'ONU. Outre le bilan terrible du conflit en vie humaine qui a fait 210 000 morts, 840 000 blessés et plus de 4 millions de réfugiés, ce rapport avertit également que l'économie du pays est sur le point de s'effondrer. Le point avec vous, Isabelle Dupuis.
Ce dernier rapport sur l'impact du conflit en Syrie indique qu'après 4 années de conflit, l'économie syrienne a perdu plus de 200 milliards de dollars et le pays est gangréné par le chômage qui avoisine à présent les 58%. À l'heure actuelle en Syrie, 4 personnes sur 5 vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Près de 2/3 de la population est dans une situation de pauvreté extrême et 30% d'autres vivent dans une pauvreté abjecte. Dans les zones de conflit, ces derniers sont souvent incapables de se nourrir et risquent de mourir de faim. En outre, près de la moitié des enfants syriens n'ont pas pu se rendre à l'école au cours des 3 dernières années et nombre d'entre eux sont contraints de mendier ou de faire les poubelles pour aider leur famille à survivre. Ce rapport attire aussi l'attention sur une calamité silencieuse qui ronge le pays. L'espérance de vie en Syrie, qui était de plus de 79 ans en 2010, a chuté de plus de 20 ans en seulement 4 ans et est à présent d'à peine 56 ans.
La situation humanitaire qui se détériore dans l'est de l'Ukraine inquiète le haut-commissaire pour les réfugiés. Le HCR et ses partenaires qui, pour la première fois, sont parvenus à livrer une aide non alimentaire dans des zones à risque, notamment dans 2 villages près de Donetsk et Luhansk. William Spindler, le porte-parole du HCR.
Nos équipes viennent de faire une distribution d'aide non alimentaire dans la région de Lugansk. C'est la première fois que nous avons accès à ces endroits. C'est 2 villages près de Lugansk qui s'appellent Novopsikov et Marikivka. Et jusque maintenant, on n'avait jamais eu la possibilité d'arriver dans ces 2 endroits. La population dans toutes les régions qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement ukrainien est dans une situation très, très préoccupante pour nous à cause de le manque de services essentiels comme l'électricité, l'eau potable, la nourriture, les médicaments. Et nous sommes très préoccupés par la crise humanitaire que vivent les régions de Donetsk et Lugansk dans l'est ukrainien.
2,4 millions de vies de femmes et d'enfants ont été sauvées dans les 49 pays ciblés depuis la création de l'initiative Chaque Femme, Chaque Enfant. C'est ce qu'indique le nouveau rapport Sauver des vies, protéger des avenirs, présenté aujourd'hui par le secrétaire général de l'ONU lors d'une rencontre de haut niveau pour tirer le bilan du mouvement créé afin d'améliorer la santé des femmes et des enfants dans le monde entier. Ban Ki-moon en a souligné les réussites.
Since 2010 alone,
depuis 2010, le monde a sauvé la vie de quelque 2,4 millions de femmes et d'enfants. Davantage d'enfants reçoivent des médicaments pour lutter contre la diarrhée. Davantage de bébés reçoivent une bonne nutrition et bénéficient des bienfaits de l'allaitement maternel exclusif. Davantage de femmes accouchent dans un établissement de santé. Davantage de femmes et de filles reçoivent les services de santé sexuelle et reproductive qu'elles veulent et dont elles ont besoin. Et davantage de femmes enceintes reçoivent des antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH à leurs bébés.
La violence commise au nom de la religion peut donner lieu à des violations massives des droits de l'homme. Elle prend différentes formes allant des exactions les plus atroces au vandalisme des cimetières en passant par le harcèlement des minorités. C'est ce qu'a relevé ce mardi à Genève le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction en présentant lors de la 28e session du Conseil des droits de l'homme son rapport sur les différentes formes de violence commises au nom de la religion. Alpha Diallo.
Ce rapport fait l'état des lieux de différentes formes de violences commises au nom de la religion. Le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction cite ainsi les attentats contre des personnes ou les actes terroristes, les violences intercommunautaires, la répression de l'État et les lois discriminatoires. Heiner Belfil fustige d'ailleurs des groupes armés qui, dans certains pays, invoquent la religion pour justifier des atrocités comme des massacres, des exécutions extrajudiciaires ou des attaques aveugles contre des civils. Dans d'autres pays, les minorités religieuses sont harcelées avec la profanation de leurs cimetières et des lieux de culte, ainsi que des menaces sur leur sécurité. Quant à l'implication de l'État, elle va de l'impunité pure et simple à la complicité, voire à l'orchestration de la violence. Le rapporteur spécial a rappelé la responsabilité globale dans ce combat contre la violence au nom de la religion. Il demande aussi aux États d'abroger les lois contre le blasphème ou la conversion, ainsi que toute autre disposition discriminatoire du droit pénal, y compris celles qui se fondent sur des lois religieuses. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a co-organisé ce mardi au siège un événement pour encourager les États à réformer leurs lois sur la nationalité afin de briser un des cycles cruels de l'apatridie. Selon le HCR, un enfant naît apatride tous les 10 minutes et nombre d'entre eux en raison du fait que dans 27 pays du monde, les femmes n'ont toujours pas le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants. C'est notamment le cas au Libéria et en Sierra Leone, les explications d'Emmanuelle Mitte, administratrice régionale principale chargée de l'apatridie du HCR en Afrique de l'Ouest.
Bon, il faut bien regarder ce problème dans le contexte des fortes migrations, puis de l'exil aussi qui a touché dans les années 90, années 2000, tant la Sierra Leone que le Libéria. De nombreuses femmes ont donné naissance en dehors du Libéria à leurs enfants. Parfois, il n'y avait pas de père. Le père est mort avant de reconnaître l'enfant. Le père n'a jamais reconnu l'enfant. Donc les enfants vont naître à l'étranger, dans un pays qui n'est pas le pays de leur mère, et ils ne pourront pas obtenir la nationalité de leur mère. Et ces enfants, nés de mère sierra léonaise et libérienne, dans un pays d'Afrique de l'Ouest, dans la plupart des cas, n'obtiendront pas la nationalité du pays dans lequel ils naissent. Parce qu'il n'y a pas de disposition dans les pays d'Afrique de l'Ouest qui permet l'acquisition de la nationalité par ce qu'on appelle le principe du jus soli, le simple fait d'être né sur le territoire.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité, la recrudescence des attaques contre les albinos en Afrique de l'Est. Au cours des 6 derniers mois, au moins 15 personnes atteintes d'albinisme auraient été tuées ou enlevées dans cette région. Ces attaques de plus en plus violentes sembleraient cibler surtout les enfants. Zeid Raad Al-Hussein, le commissaire aux droits de l'homme, a vivement critiqué la brutalité de ces crimes ainsi que l'impunité dont bénéficient les coupables, comme l'explique Cécile Pouilly, porte-parole des droits de l'homme à Genève, au micro d'Alpha Diallo.
Les gens vivent dans la terreur au Malawi, hein, par exemple, en ce moment. Les enfants ne vont plus à l'école, les adultes n'osent plus s'aventurer à l'extérieur. Il y a des gens qui apparemment sont en train de tourner dans la région, notamment dans un district du sud du pays, à la recherche d'albinos pour les kidnapper et les assassiner et les couper en morceaux. Donc c'est vraiment une situation totalement atroce et révoltante. Et bien sûr, nous appelons à l'action. Il faut que cela cesse et il faut que l'impunité cesse pour ces crimes atroces.
Vous parlez d'attaques extraordinairement vicieuses, c'est-à-dire c'est parce que les enfants sont désormais pris pour cible particulièrement?
Mais oui, et ce n'est pas nouveau malheureusement. On prend le cas encore samedi dernier d'un petit garçon de 6 ans qui a été attaqué à son domicile. Ses agresseurs ont pris la fuite après lui avoir coupé la main droite. Il est maintenant à l'hôpital terrifié avec sa maman qui a également été blessée. On a eu un petit garçon d'un an également en Tanzanie qui a été atrocement mutilé après avoir été kidnappé de son domicile. On l'a retrouvé bras et jambes coupés. Il faut que ces crimes atroces cessent.
Est-ce qu'avec ces attaques au Malawi et en Tanzanie, peut-on dire que maintenant c'est le centre où les albinos ont plus peur de vivre?
En ce moment, il y a clairement une terreur qui règne au sein de la population atteinte d'albinisme en Malawi, en Tanzanie. Au Burundi, il y a également des attaques. Nous avons recensé 19 meurtres depuis 2008. Il y a une recrudescence de ces attaques en ce moment et c'est pour ça que nous appelons à l'action. Il ne faut plus attendre, il faut protéger ces gens et il faut faire punir les coupables pour leurs crimes.
Quand vous demandez des actions, concrètement, vous demandez quoi ?
D'abord, il faut sensibiliser la population parce qu'il y a toujours des croyances selon lesquelles l'utilisation d'une partie des corps de personnes atteintes d'albinisme peut servir à renforcer des rituels magiques. Donc il faut lutter contre ces croyances. Il faut faire comprendre aux gens que les personnes atteintes d'albinisme sont des gens aux mêmes égards que vous et moi, avec les mêmes droits, qui ont le droit de vivre dans la paix et non pas de souffrir de discrimination et d'exclusion perpétuelle et de vivre dans la pauvreté. Mais bien entendu, au-delà de ça et de ces changements de mentalité qui sont nécessaires, il faut punir les responsables de ces crimes. Il faut les traduire en justice, il faut que l'impunité cesse. Et il faut également offrir des réparations et la réhabilitation pour les survivants et pour leurs familles. Il faut que ce soit une priorité.
Est-ce que l'interdiction de la sorcellerie imposée par les autorités tanzaniennes en janvier dernier est un pas vers la bonne direction ?
Oui, c'est un pas en avant, de même que la condamnation de 4 personnes pour le meurtre d'une femme atteinte d'albinisme en 2008. Mais cela ne suffit pas, il faut plus de mesures et rapidement.
Est-ce que ce combat, c'est un combat dirigé seulement dans les pays africains ?
Dans le monde, ces personnes souffrent de discrimination, d'exclusion sociale et sont souvent confrontées à la pauvreté. Il leur est très difficile de mener une vie normale. Et nous avons dernièrement sorti les résultats d'une enquête qui a été menée au Pakistan. Elle montre bien que les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à de nombreux problèmes. Le rejet social, des problèmes médicaux, des problèmes psychologiques, le fait d'être confinées à une pauvreté sans fin de génération en génération.
Voix de femme.
Cette semaine, dans Voix de femme, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie s'exprime en faveur des femmes et tire le bilan de 20 ans de mise en œuvre des recommandations de la conférence de Beijing sur les droits de la femme. Michaëlle Jean est-elle l'une des principales intervenantes au débat de haut niveau tenu par l'Assemblée générale des Nations unies en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes d'ici à 2030 pour marquer la Journée internationale de la femme 2015, l'occasion de la recevoir dans nos studios.
Être ici en ce 8 mars, c'est un moment où nous tirons le bilan aussi, 20 ans plus tard, de la déclaration de Pékin sur les droits des femmes. C'est bien de pouvoir amener la perspective francophone à cet égard et de voir là où les combats doivent être poursuivis, maintenus, dans un état de veille constant, dans un état de vigilance vigoureuse. Bien sûr que nous pouvons nous féliciter de certaines avancées, de certains progrès au niveau de la scolarisation des filles, au niveau par exemple de l'entrée des femmes sur le marché du travail, la force des femmes aussi avec leur esprit d'entreprendre. En même temps, regardez combien, dans les conflits que nous connaissons, combien la guerre atterrit jusque dans le ventre des femmes. Le viol est utilisé comme une arme redoutable. J'ai en tête et dans mon cœur, je porte cette souffrance, les témoignages de quantité de femmes que j'ai rencontrées qui me disaient comment elles avaient été violées à répétition par des miliciens, par des militaires, par des terroristes après avoir été séquestrées pendant des années. C'est horrible, les histoires horribles persistent. Combien de femmes encore disparaissent ou sont victimes de violences dans les quatre murs de leur maison, violentée par leur conjoint. Une femme sur 7 fera l'expérience de violence dans sa vie. Nous avons en ce moment 130 millions de femmes excisées qui ont subi ces mutilations sexuelles. Nous avons quantité de femmes qui meurent en couche, faute de pouvoir accéder à des services adéquats. Nous avons encore beaucoup de petites filles qui n'ont pas accès à l'école et elles sont des millions. 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Dans les situations de conflit que nous connaissons et avec le terrorisme et tous les massacres perpétrés qui poussent des populations à fuir, les hordes de réfugiés qui doivent partir en toute hâte, ce sont d'abord et principalement des femmes et des enfants. Tout cela est horrible. Donc, moi, je me dis que bon, on s'est donné pour horizon en tout cas, d'avancée majeure pour la reconnaissance pleine et entière des droits des femmes 2030. Mais je me dis, mais n'attendons pas 2030. Ce n'est pas possible. C'est dès à présent qu'il est important de sortir de ces déclarations autour de lesquelles nous nous réunissons, des actions concrètes. Il faut passer de la parole aux actes.
Que propose la francophonie concrètement?
Dans sa charte, tous les jours, ce sur quoi nous travaillons avec beaucoup d'ardeur, c'est d'une part de dénoncer, de faire savoir, de rapporter, d'être à l'écoute, de mener des campagnes de sensibilisation, de travailler dès le plus jeune âge à partir de nos actions qui ont à voir avec l'éducation, avec la formation, avec les jeunes sur ces questions. Nous avons créé aussi des plateformes d'égalité femmes-hommes, nous avons créé des plateformes femmes-hommes tout simplement travailler ensemble. Ça veut dire mobiliser. Mobiliser, par exemple, des organisations de la société civile sur ces questions. Les accompagner aussi sur ces actions que mènent ces organisations de la société civile. Intervenir aussi au niveau des décideurs, au niveau des États, des chefs d'État et de gouvernement, au plus haut niveau, mais partant de la base également, sur le terrain. Surtout, je dirais, ces progrès que l'on a vus, même au niveau des mentalités. Les idées font leur chemin et c'est très important. La francophonie a travaillé en amont même de Beijing. Nous avons commencé nos actions bien avant. Et chaque année, et de manière transversale. Dans tout ce que nous faisons, nous avons cette dimension du genre et cette dimension égalité femmes-hommes. Il n'y a pas une action que nous portons où, de manière transversale, il n'y ait pas aussi cette préoccupation.
Et c'est avec Michaël Jean que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.